Ce qui nous importe, c'est l'histoire. La grande, avec un H majuscule.
Le témoin de ce vendredi, Nicolas Werth et l'association Mémorial en Russie.
Le pouvoir russe n'a pas eu raison de la plus vieille ONG du pays. La Cour suprême, l'une des plus hautes juridictions, vient de rejeter la demande de Moscou.
La Cour suprême de Russie a décidé de ne pas satisfaire le recours du ministère de la Justice sur la dissolution de l'ONG russe Mémorial.
Il s'en est fallu d'un cheveu. Mémorial a failli devoir se réorganiser totalement. À l'organisation active, depuis un quart de siècle, le ministère de la Justice de Poutine reprochait ses financements étrangers et sa structure en parapluie qui couvre dans tout le pays les activités d'une cinquantaine de groupes autonomes, lesquels défendent les droits de l'homme et ne se consacrent pas seulement à l'archivage de la répression soviétique, qui était la mission d'origine de Mémorial. On sait que le régime de Poutine est solidaire de l'histoire des services secrets. Et de l'époque de Staline, il veut surtout retenir la glorieuse année 1945, dont le souvenir va être célébré en grande pompe jusqu'à l'apothéose le 8 et le 9 mai 2015. On ne peut pas dire que ce régime a rendu plus facile l'accès aux archives, ni surtout qu'il a mis en place une politique patrimoniale pour conserver les traces du goulag. Il est vrai que l'expérience concentrationnaire n'a été vécue que par un soviétique sur six entre les années 30 et les années 50. Un soviétique sur six. Comment le système de répression le plus durable et le plus étendu du XXe siècle peut-il ne pas entrer dans le champ de vision des hommes et des femmes d'aujourd'hui ?
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Nicolas Werth, bonjour.
Bonjour.
Que j'aurais tendance à traiter de témoin de père en fils. Votre père, Alexander, c'était quelqu'un?
Oui, merci. Oui, c'est vrai.
Il a été correspondant,
bien sûr, de guerre de la BBC sur le front pendant... Enfin, il est arrivé à Moscou le 3 juillet 41 et puis il est resté jusqu'en 48.
Pendant la grande guerre patriotique. Vous avez construit, sans souci de faire carrière, pierre après pierre, une grande œuvre sur la société soviétique. Vous avez d'abord travaillé sur archives aux États-Unis.
Ben oui, parce que mon premier livre, c'est quand même, ça date de 80, ce qui me rajeunit pas. Et à l'époque, bien sûr, les archives étaient fermées en Union soviétique. Par contre, il y avait quelques rares fonds, et notamment le fonds qui m'intéressait, qui était le fonds du parti de la région de Smolensk, qui était en microfilm. À New York, il y avait aussi une microfilm en Grande-Bretagne. Et à partir de ce fonds, bon, j'ai travaillé sur, au fond, ce qu'était un communiste de base dans la province russe dans les années 30. Et donc, le livre s'appelle « Être communiste en URSS sous Staline ».
Et après, 89, là, changement de perspective, une relative ouverture des archives dans le pays. Et puis, le travail de Mémorial qu'on va examiner de près pendant toute cette émission, qui commence sous le parrainage de grands personnages.
Oui, bien sûr, d'André Sakharov, tout d'abord. Mémorial, donc, c'est une association qui a été fondée en 88, et au moment de la perestroïka, et qui avait, au fond, deux idées principales, de promouvoir une société civile mature et une démocratie fondée sur l'état de droit, ce qui était un grand programme au moment de la perestroïka. Et puis la deuxième orientation, c'était de, au fond, ne pas oublier toute cette dimension répressive qui était pas seulement du fait de Staline, mais au fond qui avait commencé aussi avant, et donc de garder la mémoire du goulag, des déportations, des répressions.
Alors vous étiez encore la semaine dernière à Mémorial Moscou, où il y a des salles de lecture, des chercheurs.
Il y a des salles de lecture, il y a une magnifique bibliothèque et des archives, parce que les gens apportent encore des lettres, des manuscrits à Mémorial, enfin de leur, des personnes déjà très âgées ou des gens plus jeunes qui apportent des archives familiales. Et en ce moment, par exemple, à Mémorial, il y a une exposition tout à fait passionnante des lettres envoyées du Goulag à leur famille.
Quand vous décidez, en 2011, d'aller toujours plus loin vers l'Est, de sortir des salles d'archives de Moscou, la fille d'un de vos amis dit « Mais tu veux aller là-bas, à l'extrême-Est, toujours plus loin, la Kolyma, en Sibérie orientale ? Ça coûte aussi cher que d'aller aux Maldives. »
Oui, c'est un point de vue. Et malheureusement, ce point de vue reflète d'abord la grande méconnaissance des jeunes, de tout ce passé. J'ai un autre exemple, lorsqu'on était avec Irina Fling et une autre responsable de Mémorial dans un café, une pizza hut à Magadan, la capitale de la Kolyma, le lieu même au fond symbolique du goulag, eh bien on était dans cette pizza hut et une serveuse, on a demandé, alors on a dit on est là au cœur du goulag, et visiblement elle ne savait pas ce qu'était le goulag, elle a dit c'est un groupe de rock.
On va entendre, parce que vous êtes parti avec ces récits de la Kolyma dans la poche, des textes laconiques de Varlam Chalamov, qui a été déporté en deux fois, une bonne vingtaine d'années, qui est mort dans la misère, dans un asile en 1982, qui se demandait « Documents de notre passé anéanti, baraque rasée, fil de fer rouillé et transporté ailleurs. Avons-nous jamais été ?»
Mots sigles, techniques, utilitaires, à consonnes et majuscules, les miradors du nouveau dictionnaire. AOU, direction de l'administration. GTU, direction principale des prisons. MTI, ministère de l'industrie lourde. Plus de 1000 sigles, parmi lesquels celui d'une nouvelle direction centrale. Non pas des prisons, mais très précisément des camps de travail correctif. Le goulag. Le vocabulaire du camp était encore celui du vieux système pénitentiaire d'avant la grande rupture. Cheval. Un jour de printemps, on attela des détenus dans la neige fondante qui montait jusqu'aux genoux pour tasser la route aux chevaux. J'en conclus qu'ici, le cheval valait plus qu'un homme. Étape, mot-clé, transport d'un convoi, partir pour l'étape, arriver d'une étape. L'étape, la plaque tournante, la caisse de résonance du camp. Évasion. On encourageait l'habitant à chasser l'évadé. Pour chaque prise, il y avait une prime. À l'époque, c'était 2 poudres de farine par tête, 30 kilos. Zone d'abattage. Lieu de travail situé à l'extérieur du camp. Il se déplaçait selon les coupes. On nous y conduisait le matin, et le soir nous rentrions au camp, à pied et sous escorte. Zec. Ce mot ne sera introduit qu'après 1937. On disait avant un détenu ou un condamné. Il y avait une majorité de droits communs qui souvent étaient responsables de la distribution du travail. Travail. Couper, scier, porter, tirer, charger le bois.
On arrivait dans cet extrême est, étape par étape, dans des wagons à bestiaux. Chalamov, il a mis des mois, ou coupe après coupe. Et vous, c'est quand même 8-9 heures d'avion avec vos copains de Mémorial, Nicolas Berthe.
Oui, très rapide, 8 heures d'avion, ce qui monte la distance, hein, quand même 9000 km de Moscou. Il faut savoir en plus que pour arriver à la Kolyma, non seulement on prenait le train jusqu'à Vladivostok ou à Nakhodka, mais après, on attendait longtemps, des semaines et des semaines, souvent un bateau qui mettait encore une semaine pour décharger sa cargaison humaine à Magadan, la capitale de la Kolyma qui avait été construite par les détenus eux-mêmes à partir de 1933. Et ensuite, commençait un énième voyage en camion ouvert avec des séries de bancs par tous les temps, enfin donc décapotable, un de ces gros camions. Ça pouvait être d'ailleurs des Studebaker américains parce que pendant le pré-bail, les Américains avaient envoyé beaucoup de matériel. Et
le pré-bail pendant la Deuxième
pendant
Guerre mondiale.
Pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, donc, le long de cette route de la Kolyma, entièrement construite par des détenus sur des centaines et des centaines de kilomètres, on arrivait jusqu'au volcan jusqu'au gisement d'or ou d'uranium ou d'étain où les gens étaient mis au travail.
Dans des combinats. Je suis le récit que vous avez fait de ce voyage, la route de la Colima, c'est aux éditions Belin, donc vous avez vos copains de mémorial avec vous, souvent plus résistants que vous. Hein. Irina, oui. Elle peut dormir dans toutes les conditions.
Oui, mais écoutez, j'ai tâché de faire.
De suivre. Et ils vous font rencontrer d'autres militants qui constituent une sorte de réseau invisible. Mm-hmm. Les uns animent une association. Ivan Panikarov, très beau personnage, a créé un musée.
Le premier et le seul musée privé du Goulag. Donc, en fait, c'est une histoire extraordinaire parce que lui, il a maintenant à peu près 60 ans, mais il est arrivé au Goulag, justement à la Colima au début des années 80 comme plombier, tout simplement parce qu'il ne connaissait rien au Goulag. Il voulait gagner un peu plus d'argent. C'était quelqu'un qui venait d'Ukraine. Et là, il a évidemment fait connaissance dans les foyers de travailleurs avec des anciens détenus. Il a commencé à s'intéresser au Goulag. Il a commencé à collectionner des objets. Il suffisait de se baisser pour trouver l'archéologie du Goulag.
Vous-même, vous Moi-même, trouvez un bout de lit d'hôpital.
Un bout de lit d'hôpital rouillé, voilà. Ah. Et en fait, donc, il a créé le premier musée du Goulag en 1994. Dans son appartement, il habite dans 40 mètres carrés. Il s'est mis lui-même à habiter dans la cuisine, 6 mètres carrés, et le reste, c'est le musée du Goulag.
Lui est à l'étroit, mais les villes, les anciens camps, la capitale de la Colima, cette région insérée dans le Goulag Magadan, eux ou elles sont au large, parce que leurs fonctions ont décliné depuis l'époque de la grande exploitation. L'émission de France Inter, Faut pas rêver, est allée avant vous sur ces sites.
On se trouve sur l'emplacement de l'ancien camp d'Elgin, qui a fonctionné jusqu'au début des années 50. Je suis né ici. J'ai vécu ici. Ça a plus de 50 ans. C'est bien conservé.
Quand je me suis retrouvé pour la première fois dans ces lieux, j'ai ressenti une nécessité de toucher les baraques. Non seulement respirer cet air, mais toucher les baraques.
On n'est pas obligé de penser tous les jours à cette tragédie. Mais quand un homme voit cela, il réfléchit, il se souvient. Et ainsi, ça devient notre mémoire.
C'est une colonie de vacances pour les jeunes. Les visites des monuments du passé font partie de leur programme. Parce que ce monument est devenu une sorte de mecque culturel. Savez-vous ce que représente ce masque?
Oui, on sait.
C'est le masque du deuil. Vous le savez?
Oui.
Est-ce que quelqu'un de votre famille a été emprisonné dans un camp?
Non.
Ce monument, visité par quelques passants, environné de nuées de moustiques qu'on a cru pouvoir deviner à l'oreille, c'est le seul à Magadan, et dans toute la Russie, pratiquement, consacré au souvenir du Goulag et qui a été inauguré officiellement. Il s'appelle le Masque de l'Affliction.
Oui, c'est un monument très impressionnant qui, en fait, a été créé par le grand sculpteur émigré russe aux États-Unis, Ernst Nesvestny. Et en fait, c'est sous le président Yeltsin que, au fond, on a pu mettre ce monument en place. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, on a cette double mémoire à Magadan. Il y a d'un côté, en effet, ce masque de l'affliction qui est à la sortie de la ville, mais en centre-ville, devant la mairie, il y a le masque de qui ? De Édouard Berzine, qui était le responsable de la police politique envoyé par Staline pour organiser et coloniser cette région.
Donc, le représentant de la première génération de la Tcheka dans la région. Si, il y a quand même des monuments qui peuvent être honorés de la visite des dignitaires du régime de Poutine, ce sont les monuments de l'Église. On sait des traits principaux du régime de Poutine, c'est l'alliance étroite avec l'orthodoxie.
Tout à fait. Le seul autre monument, en effet, vous avez tout à fait raison de citer, c'est le complexe mémoriel de Boutovo dans la banlieue de Moscou, où ont été exécutées entre 20 et 25 000 personnes au moment de la Grande Terreur de 1937-38, mais qui a été totalement colonisée par l'Église orthodoxe, puisque, en fait, elle y a construit une église martyrium, mais où on honore essentiellement les quelques mille membres du clergé pop qui ont été assassinés ici, mais on ne dit pas grand-chose des 20 000 autres qui étaient, au fond, qui n'étaient pas des membres du clergé, qui pouvaient être des communistes, qui pouvaient être de simples citoyens, qui sont très peu honorés là.
C'est la tradition peut-être un peu étroite des églises sur le sang, c'est ainsi qu'on les nomme en Russie. Voici maintenant une chanson sur le sang interprétée par Dina Vierny, l'ancienne muse de Mayol, la créatrice de la fondation du même nom, qui rappelle ce qu'était le port de Vanin, la ville de Magadan dont vous nous parliez, Nicolas Werth, la capitale du pays de Kolyma. Comment montions-nous par la passerelle à bord dans les sinistres cales froides du tangage, gémissaient les internés enlacés comme des proches, comme des frères.
Я помню тот Ванинский порт и виды пароходов угрюмы, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки стонали зэка, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия. Ау! Растаял туман, утихла пучина морская, восстал на пути Магадан.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Калымского края.
Avec ce vendredi, Nicolas Werth, qui est un témoin, ou plutôt un témoin de témoins, qui nous parle du grand chantier de l'organisation mémoriale que le régime Poutine verrait sans difficulté interrompue ou ralentie, et qui consiste à archiver la mémoire de l'immense système concentrationnaire soviétique, dont il faudrait dire maintenant, Nicolas Werth, qu'il fonctionne étape par étape comme une roue qui broie. Il y a eu l'époque de Berzine, on parlait de la Kolyma.
Oui.
Il a fini lui-même arrêté.
Bien sûr, c'est une des particularités justement de ce système par rapport par exemple au système concentrationnaire exterminatoire nazi. C'est-à-dire qu'il y avait bien sûr des bourreaux qui étaient à un moment périodique, qui étaient eux-mêmes donc devenaient victimes.
C'était en 37 qu'il était arrêté, c'était en 37, oui, la grande terreur. Femme se retrouve elle-même dans un camp.
Oui,
les enfants dans un orphelinat du NKVD et la Rolls-Royce de la Krupskaya, la veuve de Lénine, qui était leur véhicule abandonné. Alors, il y a les déportés de la Grande Terreur qui sont, on sait combien ils sont?
Oui,
après 37-38?
En 37-38, pendant juste cette année, il y a eu 1 million de personnes qui ont été envoyées au goulag et 700-800 000 qui ont été exécutées. Mais il faut bien comprendre que pour l'ensemble de la période, c'est-à-dire en gros entre la fin des années 20 et la mort de Staline, c'est 20 millions de personnes qui sont passées par le goulag. Ça ne veut pas dire que tous y sont restés tout le temps. La durée d'incarcération moyenne pour les non-politiques était de l'ordre de 6-7 ans. Pour les politiques, c'était 10 ans reconduits, donc c'était en gros, ils prenaient le terme complet. Et sur ces 20 millions, à peu près 2 millions, d'après les calculs de l'administration, et sans doute un peu plus, sont morts donc au goulag.
Alors les débuts avec l'époque de Lénine, la grande terreur de 37, je voudrais m'arrêter avec des témoignages un instant sur un autre moment, 40-41,
déportation de plusieurs centaines de milliers de Polonais et de Baltes, les pays en question étant occupés après le pacte germano-soviétique. Voici ici le témoignage d'un Estonien qui s'appelle Pip Varju. Il a été déporté en 1941, séparé de son père. Sa mère enceinte, son frère et sa sœur ont disparu et il s'est retrouvé isolé.
Au moment où je suis arrivé à l'orphelinat, je ne parlais que l'estonien, bien entendu. Et je me souviens qu'il y avait une petite fille qui avait une année de plus que moi. On se parlait en estonien. C'était un orphelinat pour les petits, à l'âge préscolaire. En fait, on nous a interdit de communiquer en estonien. Et très rapidement, j'ai oublié ma langue maternelle. J'ai oublié l'estonien. Il y a une scène que je garde en mémoire. Je me suis approché de cette petite estonienne. J'ouvre la bouche, je veux lui dire quelque chose en estonien, et du coup, je comprends que je n'arrive pas à sortir un seul mot en estonien.
Juste une histoire pour montrer le fonctionnement du travail des militants de l'histoire de Memoria et de leurs amis. Nous nous sommes adressés, c'est Franck Olivard qui préparait cette émission, à l'Association des Amis de Mémorial en France, dont on trouvera le site sur notre site, qui nous a mis en rapport avec une unité mixte du CNRS, qui travaille avec Valérie Livelon de Radio France Internationale. Et là aussi, il y a un site, on a accès à de nombreux témoignages comme celui-ci. On connaît mal le destin des enfants.
Oui, il faut comprendre que la répression, une des caractéristiques de cette répression stalinienne, c'est qu'elle visait non pas un individu, mais en fait soit le clan, la famille, ou tout simplement des catégories encore beaucoup plus larges, comme toute une nationalité qui était par exemple déportée, les Tchétchènes, les Ingouches. Mais pour revenir à cette idée de responsabilité familiale, d'habitude, le père de famille était envoyé en camp. La mère était et les enfants étaient déportés. Il faut bien distinguer le camp et la déportation, deux choses un peu différentes, puisque bon, le camp, on est derrière des barbelés. En déportation, on est assigné à résidence dans un village de peuplement, souvent pas loin du camp. Et évidemment, il y avait beaucoup d'enfants qui perdaient leurs parents, qui étaient donc dans des orphelinats. Mais il y avait aussi le cas des orphelinats spécialisés à l'intérieur des camps, puisque d'après les règlements du camp, une femme enceinte détenue accouchée, elle pouvait garder, allaiter son enfant pendant quelques mois, et ensuite ses enfants étaient mis dans des orphelinats à l'intérieur du camp avant d'être placés à l'âge de 4 ans dans des orphelinats en dehors du camp. Et par exemple, lorsque j'étais à la Kolyma, j'ai visité le fameux camp de Yelgen, dont parle Evgenia Ginsburg dans son magnifique livre « Le vertige et le ciel de la Kolyma », où elle était elle-même éducatrice, et il y a ce très touchant cimetière des enfants dont on peut encore voir quelques restes.
Alors, les vagues des années 40, avec les Baltes et les Polonais, nationalité minoritaire jugée infâme, plus en psyché, il faudrait ajouter les Tatars de Crimée, qui ne sont plus tellement en Crimée maintenant. Les gens suspectés ou ayant réellement collaboré, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Mais l'apogée, dites-vous, et ça c'est moins su, c'est le début des années 1950. Début des années 50, l'administration du Goulag, c'est près de 300 000 personnes pour 5 millions de détenus ou de déplacés spéciaux.
Absolument. Et pourquoi il y a tellement de monde ? Parce que là, on n'est pas uniquement dans une répression, je dirais, entre guillemets, politique, mais vraiment une répression sociale. C'est-à-dire, il y a une loi du 4 juin 1947, absolument terrible, qui condamne à 10, 15, jusqu'à 20 ans de camp tout
dilapidation de la propriété sociale. Ça voulait dire que si un malheureux paysan, et il y avait de la famine en 46-47 après la guerre, et puis avec tous les prélèvements dus sur la production des kolkhoz, s'il volait quelques pommes dans un verger, quelques épis de blé dans un champ du kolkhoz, il était condamné. Et ça représente la moitié, tous ces pauvres gens accusé de vol, ça représente la moitié des détenus du goulag à la mort de Staline.
Et retenons un mot, Oukazniki, ce sont ces détenus qui ont volé la propriété d'État. La mort de Staline, 1953, au mois de mars, témoignage toujours recueilli selon la même source, dont on trouvera toute indication la concernant sur notre site. Antanas Seikalis, c'est un Lituanien, il a été arrêté parce que son amoureuse avait senti l'embrassant qu'il avait une arme dans son pardessus. Il a su ça plus tard, en retrouvant trace de l'événement dans les archives du KGB rouvertes.
Le jour de l'enterrement de Staline, on ne nous a pas amenés aux travaux, on nous a tous rassemblés sur la place centrale du camp, et à midi pile, on nous a ordonné d'enlever les chapeaux. Il faisait froid encore. Et au milieu de nous, il y avait des Polonais. Ils étaient cachés par d'autres détenus. Ils ont enlevé leurs chapeaux, ils ont commencé à les lancer en l'air. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait un agent du KGB, un capitaine qui était resté sur le mirador et qui surveillait tout le monde. Il a vu ce qui se passait, mais il ne savait pas qui c'était. Ils ont commencé à nous interroger un par un. Personne ne les a donnés, ces Polonais. En tout cas, on a bien rigolé quand ils ont commencé à lancer leurs chapeaux en l'air pour célébrer l'événement. L'enterrement de Staline, je m'en souviendrai. Ce sont de bons souvenirs, somme toute.
Des grèves, des révoltes s'en suivent qui vont accélérer peut-être le démantèlement à partir de 1955.
Oui, il y a très rapidement, quelques mois après la mort de Staline, des grèves menées notamment par les politiques baltes, ukrainiens, qui sont les plus, disons, les plus déterminés. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'amnistie décrétée juste quelques semaines après la mort de Staline ne concerne pas tous ceux qui ont été condamnés pour des crimes supposés contre-révolutionnaires, d'où une immense série de grèves à Norilsk, à Vorkuta et ailleurs. Et j'ai rencontré justement à Magadan un certain nombre d'anciens participants à ces grèves.
Ces mémorials qui, seuls, on peut même dire isolés, continuent maintenant ce travail pour rendre signifiant ce passé. Parce que pour le régime de Poutine, il y a un seul passé signifiant, c'est celui de la Grande Guerre patriotique qui va être célébrée tout au long de l'année. Il l'a déjà été avec l'anniversaire de Yalta.
Il y a là évidemment une très grande inflexion par rapport au début des années 90, lorsque je travaillais à Moscou et sous la présidence Yeltsin. Il y avait encore, disons, une volonté de quand même montrer ce côté-là des choses. Depuis évidemment une quinzaine d'années, depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir, on ne veut montrer que la face lumineuse et glorieuse de cette histoire nationale, de cette période soviétique de l'histoire russe.
Alors le régime, cherchant beaucoup de poux dans la tête de Mémorial passe beaucoup de temps à se défendre et ça mobilise des énergies qui pourraient être plus utiles ailleurs, d'autant que les membres de Mémorial, il faut quand même le dire, ne sont plus nécessairement très jeunes et ils sont néanmoins optimistes.
Ils sont néanmoins optimistes. Oui, d'abord, ils ne sont pas jeunes parce que bon, les jeunes, malheureusement, ne s'intéressent pas tellement à cette histoire. Donc, ils ont vieilli avec le temps. Les membres de Mémorial sont plutôt des gens de ma génération. Et néanmoins, j'ai vu l'autre jour Arseniy Raginski, le très dynamique, le plus tout jeune président de Mémorial, qui me disait que bon, il restait optimiste car le jugement du tribunal était quand même assez significatif.
La Cour suprême a permis à Mémorial de continuer ses activités. Nous non plus, nous ne voulons pas que le passé soit insignifiant. Vieux Colombier, la séance est de nouveau ouverte lundi 16 à 20h. C'est gratuit, vous pouvez vous inscrire. Restitution avec des comédiens du français de deux débats parlementaires, 1825 le sacrilège, 1848 la devise de la République. Le numéro de téléphone 01 44 39 87 00. Vous pouvez appeler le Vieux Colombier au 44 39 87 00.